Biotop, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol.
Biotop. Un programme soutenu par BioValley.
À l'écoute sur RDIWA 107.5 FM et sur Radio Saint-Ferréol 94.2 en compagnie de Sandrine Armand. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paysagiste sensible pour des jardins écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est vrai qu'au départ, on se dit que tous les jardins sont écologiques. Ça parle de nature, de fleurs, d'insectes. Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est quand même un secteur où souvent il y a beaucoup de gâchis parce qu'on ne sait pas déceler les richesses spontané des sites qu'il faut savoir lire avant de se lancer dans la conception d'un jardin.
Même on sait que si on commence à mettre des produits phytosanitaires dedans, c'est plus très écologique quand même.
Le principe du produit phytosanitaire, c'est de tuer le vivant. Donc après, forcément, il y a peut-être les plantes que les gens ont voulu mettre dans leur jardin qui vont éventuellement survivre. Mais bon, ça n'a pas grand intérêt parce qu'entre-temps, on se sera pollué la santé, on aura pollué les sols et les nappes phréatiques. Avoir un jardin, c'est d'abord une source de plaisir. C'est pour se faire du bien et c'est certainement pas pour se faire du mal.
On connaît un milliard d'exemples de jardins non écologiques. Et c'est un peu pour ça que je vous lançais là-dessus. Le travail d'un ouvrier paysagiste peut parfois porter sur des ronds-points, des bords de route, sur même l'entretien d'une ville en général, une ville fleurie. C'est rarement non plus écologique.
Oui, alors c'est vraiment un secteur qui a besoin de faire sa révolution, on pourrait dire. Pendant des années, on a appris dans les écoles d'horticulture les 3T, ce que j'appelle les 3T, c'est taille, tonte, traitement. Donc c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire, c'est laisser la nature s'exprimer un petit peu plus parce qu'elle est pleine de ressources, pleine de richesses qu'on a oublié de regarder, et puis l'accompagner, y faire sa place. Un beau jardin, c'est pas une terre qu'on met à nu pour y mettre trois pensées, ça c'est pas un jardin. Un jardin, c'est la nature qui s'exprime et comment nous, on fait sa place. Donc, comment on va juste tondre la surface dont on a besoin pour s'installer dans l'herbe ou l'arbre qui va nous faire de l'ombre sur la terrasse. Voilà, mais on n'est pas obligé de tout détruire pour y mettre trois plantes qui n'ont finalement aucun sens, ni pour la nature, ni pour nous.
Alors, avant qu'on détaille plus particulièrement votre activité, est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent ce culte des 3T ?
C'est l'histoire qui veut ça. L'après-guerre, les lobbies des produits phytosanitaires qui ont essayé d'expliquer aux êtres humains qu'ils avaient besoin de ces produits pour pouvoir faire le jardin, quoi. Donc c'est le culte du propre. Alors il n'y a pas un mot pire au jardin que le mot propre. C'est pas en mettant des produits qui sont mauvais pour la santé que c'est propre. Une herbe folle est plus propre qu'un produit phytosanitaire. C'est vraiment le résultat des lobbying en fait de l'après-guerre, des lobbying de l'industrie pétrochimique, quoi, qui nous ont inculqué ça et qui nous ont mis dans une forme de dépendance par rapport à ces produits. On peut très bien s'en passer au jardin.
Alors peut-on le rappeler, c'est des produits qui ont servi à tuer des gens d'abord et puis qui ont été recyclés par la suite pour aller dans les jardins et dans l'agriculture.
Voilà, c'est exactement ça.
Donc avec une logique capitaliste assez importante.
Oui, on pourrait même dire violente, parce que les gens oublient quand ils les utilisent qu'il y a quand même une tête de mort qui signifie que ce produit est dangereux, quoi. Donc on est loin de la poésie de l'herbe folle. Je crois qu'il faut regarder les choses d'un autre œil et vraiment les oublier à tout jamais, ces produits.
Et pour terminer sur la propreté d'un jardin, c'est-à-dire des petits galets, des petits cailloux très blancs, cette absence d'herbe folle, enfin...
Je pense que chacun a son idéal et ses goûts, ça. Enfin, il y a différents degrés. On peut imaginer des jardins qui seraient une forme de jardin sauvage, où juste on tond une allée pour pouvoir passer, voilà. Mais ça peut être aussi des jardins qui sont très sophistiqués, très dessiné, presque géométrique, mais où on respecte les équilibres en réintroduisant un pourcentage raisonnable de flore indigène qui sont reconnues par les insectes, qui vont pouvoir favoriser la pollinisation, enfin toutes ces choses quoi. Donc un jardin propre, c'est un jardin qui respecte les équilibres. Enfin propre non, enfin j'ose même pas utiliser ce mot-là. Pour moi c'est un jardin qui est soigné. Voilà, il faudrait oublier le mot propre et parler de soins et d'échanges et d'équilibres qu'on crée dans le jardin, tout simplement.
Paysagiste sensible, des jardins écologiques, donc est-ce que c'est sous-entendre être en parfaite adéquation avec l'environnement dans lequel on est, ou alors recréer des micros environnements qui s'auto-suffisent, qui fonctionnent
C'est les deux à la fois, on pourrait dire. Alors après... parfaitement écologique, ça, je ne sais pas si ça existe complètement. Il faut rester réaliste et on a tous nos petites compromissions. Il y a parfois des choses qui sont difficiles à négocier aujourd'hui. En tout cas, faire son maximum pour être effectivement en harmonie avec le paysage environnant. Un professeur de l'école de Versailles dit souvent que le paysage, c'est comme une conversation. Et qu'on arrive difficilement dans une conversation avec ses gros sabots sans avoir écouté de quoi il s'agit avant d'arriver et en repartant avant même d'avoir conclu. Donc je pense que le jardin dans le paysage, c'est exactement ça. On n'arrive pas avec ses gros sabots, on essaye de comprendre où on est, quelle est la richesse du lieu et on s'intègre en douceur, quoi. On fait sa place, on n'arrive pas en détruisant tout et en plantant une haie monospécifique qui va nous fermer à tout jamais de l'extérieur malfaisant, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc effectivement, s'intégrer dans son paysage, c'est important dans un jardin écologique, et également en recréant peut-être des microcosmes où les équilibres vont petit à petit se recréer s'ils ont été détruits. Ça peut être le cas souvent avec les zones humides. Pendant très longtemps, les zones humides étaient ressenties par l'homme comme des zones peu intéressantes, où il y allait avoir des moustiques, où il y allait avoir je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, elle peut être peut-être à certains endroits même renforcée pour créer une mare. Elle peut être laissée intacte et peut-être enrichie avec quelques plantes qui vont créer une diversité, qui vont faire que les grenouilles vont venir s'installer. Voilà, donc c'est de la vie supplémentaire, mais c'est aussi des équilibres, puisque les grenouilles vont manger les moustiques. Donc voilà, et puis c'est une source de plaisir parce qu'il y a des plantes qui poussent dans les zones humides qu'on ne voit pas ailleurs. Donc c'est aussi une forme de diversité au jardin qui apporte du plaisir. Donc effectivement, bien comprendre à quel endroit on est, en déceler les richesses pour pouvoir les accompagner vers quelque chose de beau et de riche et surtout pas gâcher ce potentiel-là, quoi.
Sandrine Armand, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un petit peu votre parcours ? Comment vous êtes orientée vers ce choix-là ?
Un parcours un petit peu atypique, puisque au départ, j'ai fait des études de droit. Ça peut faire peur comme ça. Et puis, je me suis orientée assez rapidement vers la protection de l'enfance, peut-être mon côté sensible qui s'exprimait déjà, pour un jour bifurquer dans les études de paysage, puisque à l'époque j'habitais près de Versailles, où il y a une école assez magnifique qui s'appelle l'École nationale supérieure du paysage, qui organise depuis quelques années des formations pour adultes. C'est des formations qui sont assez lourdes, puisque c'était 2 années à plein temps, dans un cadre assez fabuleux, puisqu'on est dans les potagers du roi de Versailles.
Du très fameux jardin, très géométrique.
Voilà. Et qui est assez méconnu finalement des Français, puisque ce très beau jardin de Versailles, à la fois est très géométrique et est vécu pour la plupart des gens comme l'archétype de la rigueur au jardin. Et en même temps, il y a des endroits très secrets dans le jardin où souvent on est pressé pendant les visites et puis on n'y va même pas. Mais il y a des endroits très précieux qui s'appellent les bosquets, où en fait on retrouve des zones assez sauvages, où on peut retrouver une vraie nature en pleine ville, quoi.
Et donc, ces études-là vous ont petit à petit, enfin je veux dire, vous auriez pu très bien partir comme la plupart des paysagistes qu'on ne va pas discréditer maintenant à cette antenne, mais qui sont dans quelque chose de très classique, dans les 3T que vous avez cités. Comment part-on dans cette idée de proposer un paysagisme écologique ?
Ben, cette école a une vraie richesse. C'est une école qui laisse ses étudiants développer leur propre démarche, leur propre... C'est une formation de projet. On nous apprend à faire du projet, c'est-à-dire d'avoir une cohérence de démarche. Mon regard neuf sur la nature a été très intuitif. J'avais l'impression qu'on prenait les choses à l'envers. On parle de jardin, on doit faire des jardins, mais on nous parle de tout détruire avant, quoi.
Alors, on commence par labourer très fort.
Oui, on nous parle même d'enlever toute la terre végétale, hein, avant, pour pouvoir en remettre une autre, neuve, sur 25 cm. Alors moi, là, pour moi, ça, c'est pas possible. On travaille avec le sol tel qu'il est. Même les sols les plus ingrats, grâce à plein de techniques comme le paillage, comme on peut reconstituer des sols qui au départ pourraient paraître presque incultes. Il y a des plantes qui poussent de partout, il y a des plantes qui sont adaptées pour tout type de sol, et c'est cette connaissance-là qui va permettre de faire des jardins dans n'importe quel type de sol. Mais c'est pas possible de charrier des mètres cubes et des mètres cubes dans des camions pour trimballer de la terre d'un endroit à un autre. Pour moi, c'est une absurdité totale. Donc déjà, on commence à comprendre à quel sol on a affaire, comment on peut, avec ce qu'on a sur place, avec le broyat, avec les déchets de tonte, avec l'enrichir et faire en sorte que les plantes prospèrent, même dans un sol qui est très, très caillouteux, très sec, très pauvre. Par exemple, les plus belles prairies sauvages poussent dans des sols qui sont très pauvres. On n'est pas obligé d'enrichir les sols pour avoir un beau jardin. Il y a des plantes qui ne supportent pas les sols riches. À nous d'apprendre quelles plantes sont adaptées à quel sol.
Ce qui sous-entend donc d'arrêter de planter des espèces sur certaines zones, c'est-à-dire arrêter cette diversité qu'on voit des fois dans des jardins.
Pour moi, le terme diversité, c'est un très beau mot et qu'il ne faut pas bannir. On peut aimer certains végétaux qui ne sont pas forcément indigènes, hein, qui ne poussent pas forcément dans nos montagnes et dans nos prairies. Et dans... Voilà, on peut les aimer, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me semble un peu compliqué, c'est de choisir de s'implanter, de vivre dans une région qui est magnifique et de nier ce paysage en en plantant une guirlande de palmiers qui nie complètement le paysage environnement. Ça, c'est pas possible. C'est aussi une hérésie que de vouloir planter des hortensias, qui adorent les sols acides et humides de Bretagne, dans des sols calcaires, caillouteux et secs de la Drôme. Bon, ça dépend encore. Il y a des hortensias qui supportent plus ou moins quand même le calcaire, hein. Par exemple le paniculata peut encore s'adapter, mais on évite de mettre des plantes qui vont être en fait sous, comment on peut dire, au goutte à goutte, quoi, comme si nous on était à l'hôpital avec des aliments comme ça, sous perfusion, quoi. Il faut absolument éviter ce que les magazines ou les magasins spécialisés, les jardineries veulent absolument nous faire acheter, qui sont des plantes exotiques, qui ont besoin d'énormément d'eau, d'énormément d'engrais, alors que nos sols ici ne sont pas ni très riches, ni voilà. Parce que c'est des plantes qui seront malheureuses, qui vont végéter, qui vont multiplier les maladies. Comme nous, si on est mal nourri, ben, on tombe malade. Les plantes, c'est pareil. Et du coup, on rentre dans un cercle vicieux qui fait que oh, ben là, ma plante est malade, qu'est-ce que c'est comme maladie, quel produit je peux mettre dessus. Et puis alors voilà, Pierre, c'est foutu, quoi. Mmh.
Ou tous les ans, on en change, on en rachète une autre.
On en rachète d'autres, c'est un gouffre financier total. La première chose à faire, c'est de bien réfléchir avant de faire son jardin, de bien observer, de bien comprendre, et puis de vraiment choisir des espèces qui sont adaptées à l'exposition, au sol. Ça n'empêche pas de se faire plaisir. On se rend compte que parfois, je ne sais pas, avant j'étais en région parisienne, il y a des gens qui rêvaient de jardin méditerranéen. Moi, je me disais, bah, oui, vous avez raison, c'est magnifique un jardin méditerranéen en Méditerranée. Mais on peut aussi reprendre dans la structure du jardin, recréer des ambiances qui peuvent faire penser à des jardins exotiques, Alors qu'en fait, les plantes elles-mêmes sont des plantes totalement indigènes. Mais parce que c'est l'association des plantes, c'est la structuration de l'espace qui va recréer une ambiance plus ou moins zen, plus ou moins... On peut aimer par exemple les jardins réguliers. On peut très bien avoir un jardin qui va avoir très peu d'entretien, où les arbustes vont être en port libre, mais aimer une petite bordure de buis bien taillée. Là, on est dans le domaine de la structuration de l'espace et du soin qu'on apporte à son jardin. Donc, en fait, tous les styles de jardin sont possibles, mais avec des végétaux qui sont adaptés.
Oui, parce que le travail de paysagiste, Sandrine, c'est à la fois une beauté, une esthétique, la recherche de quelque chose qui est une certaine esthétique, justement, et puis cette notion de mariage des espèces entre elles sur un lieu. Et j'aimerais que qu'on se concentre peut-être un peu plus sur notre secteur, la Drôme, la Biovallée, puisqu'on est dedans. Quelles sont pour vous les espèces qui doivent systématiquement se trouver dans nos jardins, celles qui ne devraient pas y être? Comment devons-nous marier ces espèces-là entre elles?
Alors, il n'y a pas de plantes systématiques et il n'y a pas de jardin type. Je pense que chaque jardin est unique par rapport à l'endroit où il se trouve, parce que même la Biovallée, c'est un territoire qui est assez bien défini, quoi, mais pourtant, un jardin qui va se trouver sur un ubac, c'est-à-dire un versant nord, par rapport à un autre jardin qui va être sur un versant sud, les végétaux vont être complètement différents. Un petit jardin de ville pourra se permettre, parce qu'il va être abrité des vents, ça, des plantes qui vont être assez différentes de quelqu'un qui a un jardin avec des espaces sur un hectare. Il n'y a pas forcément de jardin type. Après, il y a des dérives qu'on pourrait peut-être corriger. Il n'y a pas de mauvais arbres, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a ce qu'on en fait et le regard qu'on porte sur lui. Par exemple, ce qui est terrible, c'est ce qu'on a fait avec les tuyas, les cyprès de l'élan, les lauriers cerises.
Là, vous avez un magnifique cyprès d'ailleurs sur votre stand, j'étais choqué.
Oui, il fait exprès. Ah. Il est un petit peu caché, mais il est quand même là justement pour en discuter. Ce qui est terrible, c'est la haie monospécifique, quoi. Ça dépaysage. C'est souvent des arbustes en fait qui sont multipliés souvent, donc oui, c'est des clones en fait, très très fragiles aux maladies. Comme ils sont plantés tous les uns à côté des autres, ils se passent les maladies, et en plus comme ils sont plantés en masse, ça produit des allergies. C'est ça qui est catastrophique. Après, moi, je rêve de rencontrer un client qui a planté un tuya dans son jardin et qui l'a laissé grandir en arbre. Parce que j'en ai encore jamais vu, quoi. Un tuya en arbre, en vrai, j'en ai vu sur des livres, mais dans les jardins, jamais.
Alors, un tuya normal, quoi.
Voilà. C'est pas une espèce indigène, on est bien d'accord, mais je préférerais voir de temps en temps un jardin avec un tuya en arbre que des centaines en haies qu'on va être obligé de tailler comme des forçats, je sais pas combien de fois par an, enfin si, je sais bien. Au moins deux ou trois fois par an pour que ça reste carré et qu'on stoppe toute évolution de ce végétal. Enfin, quand les gens achètent un tuya, ils pensent vraiment que c'est un arbuste, quoi. Mais c'est un arbre qui peut atteindre une vingtaine de mètres, peut-être encore plus. Et vouloir à tout prix qu'il garde ces 2 mètres, c'est une lutte, hein. C'est une lutte acharnée qui épuise l'homme, qui l'a servi. Alors au lieu d'avoir un jardin qui est une source de plaisir, c'est une corvée. Et en plus, c'est nuisible pour l'environnement. Enfin, vraiment, il n'y a aucun intérêt pour la haie de tuya, la haie de laurier. Donc ça, c'est à bannir. Je dirais qu'il n'y a pas de règle. Par contre, il y a de très beaux arbustes indigènes dans la Drôme. Il y a de très beaux arbres. Comme sur les versants sud, on a des très beaux chênes verts. On a des très beaux... Souvent, les gens veulent à tout prix planter des oliviers.
C'est pas encore tout à fait là.
Ouais, faut encore descendre quelques kilomètres pour tomber dans la Drôme provençale. On a par exemple les petites cnossies, les petites centaurées, les petites sauges des prés au printemps, c'est magnifique. Parce qu'en général, les sauges des prés, elles sont fauchées dans les prés au moment des foins. Et aux premières pluies de l'automne, elles réapparaissent. Donc en ce moment, au bord des chemins, au bord des routes, on voit les sauges des prés en train de refleurir. Franchement, c'est des fleurs qui n'ont rien à envier de certaines plantes horticoles qui sont bien moins intéressantes et qui demandent beaucoup plus de soins. La sauge des prés pousse sous nos talus sans rien demander, ni arrosage, ni, euh, ni amendement, ni engrais, ni rien du tout.
Alors, vous nous l'avez dit quasi en introduction de cette émission, en fait, l'homme qui veut faire son jardin est un peu comme ça soumis à tout ce qu'il a lu dans des magazines ou qu'il voit dans diverses grandes surfaces du jardinage, dont on ne citera pas les marques. On serait donc un peu formaté par cette manière de voir le jardin. Pourquoi faire venir justement des plantes exotiques, ou pourquoi le thuya a-t-il pris cette puissance d'arbre à haies alors qu'il n'est pas du tout fait pour ça?
Pareil, c'est une histoire de lobbying. C'est tellement facile à multiplier et c'est un des arbres qui a la croissance la plus rapide. Quand la personne lambda vient de faire construire son pavillon, elle va à la jardinerie, elle pose la question « Qu'est-ce que vous avez comme arbuste que je pourrais planter qui pousse vite pour me cacher du voisin ?» Donc ça, c'est la question classique. Et comme ça pousse vite, la personne qui est là lui dit « Plantez ça, ça pousse vite, vous ne serez pas déçus. » Elle oublie de lui
faire un bon mur.
D'esclavage. Ouais. Voilà, donc c'est des lobbying et c'est par méconnaissance souvent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vers 30-40 ans, donc font construire leur pavillon, par méconnaissance vont planter leur thuya, voilà. Pendant qu'ils sont en forme, ils vont tailler deux fois, trois fois par an leur haie. Et puis, ces personnes-là vont vieillir et puis arriver vers 60-65 ans, ça va vraiment plus du tout les amuser de tailler cette haie qui va finir par grandir, par prendre de la place. Rien ne pousse dessous. Le jardin se retrouve entièrement à l'ombre et ils se disent « Mais oh là là, mais c'est plus possible cette haie, qu'est-ce qu'on va faire ?» Ils finissent par tout faire couper et faire planter une nouvelle petite haie qui, elle, va mettre un petit peu plus de temps à pousser, à s'installer, mais qui va leur apporter des fleurs, des couleurs différentes à chaque saison, des parfums, peut-être même des petits fruits pour agrémenter les salades de fruits l'été. Et ils vont découvrir un nouveau plaisir. Mais parfois, il faut se tromper pour retrouver des vérités par la suite. Mais je crois que les gens se laissent un peu piéger par... Mais c'est pas que pour le paysage, hein. On est tous victimes de ce genre de choses pour des sujets différents. Je crois que c'est par méconnaissance. L'information se fait malheureusement beaucoup par la publicité aujourd'hui et par ce qui rapporte de l'argent, quoi. Donc les multiplications faciles, les produits, les choses comme ça.
Lorsqu'on vous appelle Sandrine Armand, que faites-vous? Vous venez sur le lieu, vous l'étudiez, vous discutez avec les gens?
Ah oui, c'est toujours le temps que je prends, que je m'occupe de l'étude ou pas par la suite. C'est pas forcément la question première que je me pose. Je vais d'abord rencontrer les gens, je cherche à comprendre quelle est leur démarche, quelles sont leurs questions, quelles sont leurs envies. Et puis, j'étudie le jardin, le lieu, et je fais prendre conscience aux gens de ce qui est possible et conciliable pour justement être dans une démarche à la fois simple, écologique, qui leur permet quand même de trouver du plaisir dans leur jardin en faisant les choses le plus simplement possible. Souvent, les choses les plus belles sont les choses les plus simples auxquelles on n'avait même pas forcément pensé. Par exemple, l'autre jour, j'ai rencontré un monsieur... qui avait planté des arbres fruitiers. Il avait envie d'arbres fruitiers, ce que je trouve super, parce que quitte à avoir des arbres dans son jardin, autant qu'ils produisent quelques fruits. Et puis l'herbe dessous poussait. Il disait, mais moi, j'ai pas le temps de tondre et tout ça, mais quand même, ça fait un peu désordre. Ma femme est pas bien contente, c'est pas bien entretenu. Et en fait, je disais, mais quels sont les besoins, en fait? Est-ce que vous venez pour cueillir les fruits? Et sinon, dans cet espace du jardin, est-ce que vous y venez souvent? Alors, par exemple, c'est les petits-enfants qui, l'été, vont se mettre à l'ombre des arbres pour jouer aux cartes. Voilà. Et donc, en fait, on a négocié une trajectoire où, en fait, un chemin est tondu sous les arbres et une petite placette pour pouvoir étendre une couverture et se mettre dans l'herbe qui est tondue sans forcément tondre entièrement le verger. Et puis, le verger va être fauché deux fois par an. Et ça correspond grosso modo au moment où on cueille les fruits, au début de l'été et à la fin de l'été. Donc c'est parfait.
Les auditeurs l'entendent sans doute, on est toujours depuis cette fête de la Biovallée à Saillant. Qu'est-ce que vous êtes venu y faire, vous? Et comment vous inscrivez d'ailleurs dans la Biovallée?
J'espère à terme me baser sur la Biovallée, puisqu'aujourd'hui je travaille sur Valence, mais je réalise des jardins autant sur la Drôme que sur l'Ardèche, que sur l'Isère. Si la Biovallée peut s'étendre jusqu'à jusqu'en Isère. Non, non, je plaisante, mais je suis admirative de cette démarche et c'est un vrai beau projet politique, dans le sens politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité, du vivre ensemble. Je me sens complètement en adéquation avec ce projet. Et je viens là parce que je rencontre aussi d'autres professionnels qui sont dans cette démarche. Donc c'est intéressant. Et puis les gens qui viennent sur cette fête de la Biovallée recherchent aussi des professionnels qui peuvent répondre à leurs attentes. Et c'est vrai que souvent, les gens que j'ai rencontrés sont un petit peu perdus parce qu'ils sentent intérieurement qu'ils voudraient un jardin de façon... simple et naturel. Voilà, on leur propose tout de suite des travaux, du dallage, des espèces qui n'ont pas un grand intérêt environnemental. Et en fait, la démarche que je propose, ce temps de réflexion ensemble sur leur projet est indispensable pour pouvoir faire quelque chose qui leur correspond. Comme j'ai conscience que j'apporte une réponse qui est un petit peu différente de ce qui est proposé le plus souvent, je pense que c'est sur ce genre de lieu que je peux le plus rencontrer les gens qui sont en attente de ce type de jardin.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Sandrine Herman, vous êtes paysagiste. Quel est votre travail ?
Alors, je suis paysagiste conseil. Je ne suis pas jardinière paysagiste ou entrepreneur en paysage. Je suis paysagiste conseil. C'est-à-dire que je fais des études de jardin pour... que les jardins soient réalisés en fonction du projet qui a été élaboré avec les clients. Je fais les plans de jardin pour que les personnes qui ont l'âme jardinière puissent réaliser eux-mêmes leur jardin, ou fais aussi la maîtrise d'œuvre pour trouver les artisans qui vont réaliser le projet tel qu'on l'a défini avec les clients. Ça peut être des artisans du bois pour faire des platelages dans le jardin, pour faire des bacs à compost, pour faire des terrasses en bois naturel non traité. Ça peut être des jardiniers paysagistes.
Vous proposez toutes les options que vous venez nous dire, vous les proposez vous-même déjà aux clients justement ? Cette notion de compostage, cette notion d'utiliser des matériaux écologiques aussi, avant même de faire un jardin qu'il le soit ?
C'est un tout. Un jardin, c'est une harmonie et c'est un monde qui va fonctionner avec ses ressources propres. L'arbre produit des feuilles qui tombent à l'automne. Ben, ces feuilles-là, on ne les expulse pas à l'extérieur du jardin. On les ramène au pied de l'arbre qui vont se composter, qui vont nourrir l'arbre. Et en même temps qu'on fait le projet, on réfléchit aussi à l'entretien. Et donc, que faire de ces déchets du jardin ? Eh bien, du compost. Donc en fait, il y a l'aspect esthétique du jardin et il y a l'aspect entretien du jardin. La conception de l'espace, les végétaux qui peuvent bien se marier ensemble, adaptés au sol et à l'exposition. Et puis anticiper les questions d'entretien pour que la vie soit plus facile pour le jardinier et que les plantes se sentent heureuses. Donc le compost en fait partie, le broyat, voilà, toutes les techniques de jardinage alternative, le paillage, etc.
Vous nous avez dit paysagiste conseil, mais on entend presque d'éducation aussi.
Je pense que je le fais de toute façon, malgré moi, par passion. Un beau jardin, c'est un jardin qui se porte bien, et effectivement, les personnes qui font appel à moi ont besoin de conseils, et donc effectivement, c'est du conseil, et peut-être une forme d'éducation, certainement.
Combien coûte vos services ?
J'essaye de mettre à la portée de tous les budgets, puisque ça va de la visite conseil très simple, même sans compte rendu, donc à 80€, je peux me déplacer dans le jardin et donner quelques conseils. Dès que c'est un petit peu plus poussé, qu'il y a un compte rendu, eh ben, il faut compter une journée de travail, donc ça peut être, suivant le déplacement, entre 300-400€. Et puis une étude, ben ça c'est en fonction, une étude vraiment complète avec des plans de réalisation. Ça va dépendre de la superficie des jardins, hein. Ça peut aller de 900€ pour des petits jardins de ville. Après ça dépend des jardins de 3-4 hectares, je sais pas. Après c'est aussi en fonction de la difficulté du site, si le jardin est en pente, enfin ça peut varier. De toute façon le devis est gratuit.
Vous travaillez avec des particuliers ? Et des collectivités ?
Essentiellement avec des particuliers ou avec des lieux qui sont privés mais ouverts au public. Par contre, je rêve de travailler aussi avec des collectivités parce que sur les espaces publics, il y a aussi beaucoup de choses à faire pour faire à la fois des économies budgétaires et à la fois se régaler de fleurs sauvages sur les espaces publics. Le jardin en naturel est aussi un jardin très soigné, il peut être très esthétique et très soigné.
Depuis combien de temps vous exercez ?
Depuis un peu plus de 5 ans maintenant.
Est-ce qu'en 5 ans, vous auriez un bilan à faire, un petit peu de votre activité, les points positifs et les points négatifs ?
J'ai vraiment l'impression d'avoir participé au fait que mes clients se réapproprient leur jardin, investis et à l'aise dans leur jardin. Mon plus beau cadeau, c'est quand ils me rappellent pour me payer l'apéritif. Le plus beau point positif, c'est quelque part ce que j'ai voulu créer, cette harmonie que j'ai voulu créer a réussi et a pris. C'est une harmonie entre la nature et l'homme, c'est ça le jardin. C'est vraiment un dialogue entre l'homme et la nature. Après, les points négatifs, c'est vrai qu'on est toujours surpris que des évidences ne soient pas encore assez bien largement diffusées. Hein. On a beaucoup parlé de diversité, de mettre ses produits phytosanitaires de côté et tout ça. Malheureusement, on se rend compte que malgré les évidences, c'est pas encore suffisamment répandu, mais je pense qu'on est en bonne voie. Je suis assez optimiste.
On va terminer par les contacts pour vous joindre.
J'ai un site internet www.sandrine-armand-paysagiste.fr où vous retrouverez mes contacts téléphoniques 06 98 03 46 65 et mon adresse mail contact @sandrine-armand-paysagiste.fr.
Capsule. Sandrine Armand, paysagiste conseil. Merci.
Biotop.
Avec plaisir. Au revoir.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par RDIWA et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.